Marc, chapitre 9, à partir du verset 33. C'est une scène où il y a Jésus et ses disciples. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Lorsqu'il fut à la maison, Jésus se mit à leur demander « À propos de quoi raisonniez-vous en chemin ?» Mais eux gardaient le silence parce que, en chemin, ils avaient discuté pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit. Il appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Jusqu'ici, notre lecture pour ce matin. Avec ce récit, on retrouve Jésus sur la route. Jésus a sillonné le pays dans lequel il se trouvait, il en est même sorti pour pouvoir prêcher partout, annoncer le royaume de Dieu partout où il passait. Et il avait avec lui des disciples qu'il enseignait, qu'il formait, des disciples qui deviendront à leur tour des formateurs qui feront à leur tour des disciples. C'est ce mouvement, nous en avons déjà parlé. Dieu veut toucher le monde, non pas directement, mais à travers des gens qui transmettent, à travers des disciples qui font des disciples. Donc il était là, en chemin, sur les routes de Judée, et puis en chemin, on a le temps de discuter. On était hier en route pour Lyon pour une formation, on avait 2 heures de route, on a pu discuter, imaginez à pied. Et là, les disciples discutaient et ils n'étaient pas très fiers de ce dont ils discutaient parce que quand Jésus les a interrogés de quoi est-ce que vous parliez, ils se taisent. C'était leur sujet de préoccupation ce jour-là, mais ils se doutent bien que ce n'est pas un truc qui plaît à Jésus. Ils le connaissent. Et je pense que quand Jésus leur dit que pour être le premier, il faut être le dernier, le serviteur, ils l'ont déjà entendu. Dès le début du sermon sur la montagne, dès le début de son ministère, Jésus annonce la couleur. Qui est le plus grand? Ils sont là, un grand groupe de disciples. Alors, il y en a 12 avec lesquels, sur lesquels Jésus a particulièrement investi, mais ils sont là, beaucoup plus nombreux, à le suivre. Qui est le plus grand? Est-ce que c'est Pierre, celui qui prend toujours la parole quand il y a des choses à dire? Est-ce que c'est Jean, celui pour qui Jésus a une affection particulière? Peut-être qu'il protège plus que les autres? Est-ce que c'est Judas, parce que c'est lui qui tient la bourse, qui tient les comptes? Et puis, bon, l'argent, il ne faut pas rigoler avec quand même. C'est une réflexion, je lisais un commentaire qui disait que ce sentiment hiérarchique est particulièrement vif dans le judaïsme, où on veut savoir où on se situe, à quel rang, etc. Personnellement, je ne sais pas si c'est uniquement vif dans le judaïsme, mais en tout cas, c'était leur préoccupation. Et Jésus, il en aura parlé souvent, un peu plus loin, au chapitre 10, il leur dira « Les nations ont des chefs ». Mais vous, il ne sera pas comme ça chez vous. Il n'y aura pas ces questions de hiérarchie chez vous. Le plus grand, c'est celui qui sert. C'est le dernier. Ce n'est pas nouveau. Je l'ai dit, c'est pas nouveau dans l'évangile. On le retrouve plusieurs fois, Jésus le répète. C'est même la dernière chose sur laquelle il insiste avant de mourir, lors du dernier repas. Il prend le temps de laver les pieds de ses disciples, de faire quelque chose qui est franchement dégradant, pour montrer ce que c'est qu'être le dernier, être le serviteur de tous. Et il veut leur laisser cette image avant de partir. Mais là, c'est pas avec un enfant qu'il, c'est pas avec le lavement des pieds qu'il leur explique, c'est avec un enfant. Il prend un enfant, il y avait la foule partout, et au milieu de la foule, il y avait des enfants. Il en prend un pour leur apprendre quelque chose. Je pense que les disciples devaient avoir un problème avec les enfants. Au chapitre 9, il prend un enfant pour leur expliquer. Au chapitre 10, après, ils se mettent en colère et ils cherchent à repousser les enfants. Ça n'a pas dû être un hasard comme ça. Ça devait les agacer un peu, ces enfants qui étaient là, toujours autour. Déjà, les malades, il y en avait beaucoup, plus que ce que Jésus pouvait guérir. Alors, les enfants qui sont en bonne santé, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? C'est justement un enfant qu'il prend, disant que accueillir, que servir, c'est comme accueillir cet enfant. Pourquoi un enfant? Un enfant, c'est particulier. Je crois qu'un enfant, ça ne va pas remercier, faire des grands discours pour dire combien ce que tu m'as fait, c'est formidable, etc. Un enfant, à la fois, ça a besoin de notre aide et à la fois, ça repart comme c'est venu. Quand on s'occupe d'un enfant, il y a sans doute une part de gratuité plus grande que quand on s'occupe de quelqu'un d'autre. Et c'est à ça qu'il les appelle. Au service désintéressé de ceux qui sont trop petits pour rendre quelque chose. Il le dit ailleurs, n'invitez pas ceux qui vous pourront vous inviter en retour. Et bien là, c'est quelque part, ne servez pas ceux qui vous serviront à leur tour. Servez gratuitement les plus faibles sans attendre qu'ils vous rendent quelque chose. Et il ajoute une dimension insoupçonnée. C'est que non seulement on s'occupe d'eux, mais quand on le fait, c'est comme si on l'accueillait lui-même. Et ça, c'est toujours un peu mystérieux avec Dieu, avec Jésus. Il est là où on ne l'attend pas. Et c'est pas quand on pense faire des choses les plus spectaculaires, les plus calculées, les plus grandes, qu'on le sert le plus efficacement. Je vais être honnête, je ne me suis toujours pas remis du témoignage de Ludovic lors de son baptême. Quand il nous a parlé de toutes ces petites choses que les gens ont faites sans calcul, sans rien, et de montrer la taille, l'impact que ça avait eu. C'est ça le service. Faire des choses sans espérer d'impact. Juste parce que le Seigneur nous le demande et qu'il a transformé notre cœur. Voilà ce que Jésus demande à ses disciples. Accueillez les faibles. Accueillez ceux qui sont humbles. Occupez-vous d'eux. Sans attendre en retour. C'est là que vous me servez vraiment. Comment est-ce que nous recevons ce texte aujourd'hui? Qui est le plus grand? Peut-être qu'on a l'impression que ce n'est pas notre préoccupation principale, cette question. On ne vient pas à l'église tous les dimanches en se disant « il faut que je prouve que je suis le plus grand ». Je ne crois pas que c'était la préoccupation quotidienne des disciples non plus. Ils étaient sur la route, ils avaient un peu de temps, une discussion en entraînant l'autre. ils sont partis là-dessus, et ça peut très bien nous arriver à nous aussi, et ça nous arrive nous aussi. Jésus a dit à ses disciples qu'il ne fallait pas qu'ils soient comme les rois de ce monde, à cherchant à qui dominer. Le monde n'a pas changé. On est encore dans un milieu, dans une société où il faut faire son trou, où il faut gagner sa place, dans le travail en particulier, hein, montrer qu'on en veut pour pouvoir progresser. Forcément, quand on est dans ce milieu, ça peut nous arriver d'avoir les mêmes préoccupations. Et de fait, ça nous arrive que des fois, quand on discute, par exemple, du projet d'église, on est en train de parler de la vision, quand on discute dans le projet d'église, qu'on se laisse aller à dire, mais enfin, moi, je sais mieux, je suis pasteur, j'ai réfléchi, je sais mieux. Je suis trésorier, je suis moniteur, je suis ceci, je suis cela, je sais mieux. Mais Jésus a réglé la question. Qui est le plus grand? Il a dit que la tête, c'était lui. La tête de l'Église, c'est Jésus. Ce n'est pas le pasteur, ce ne sont pas les anciens, ce n'est pas le conseil. La tête de l'Église, c'est Jésus. Et après, la différence qu'il peut y avoir entre chacun, ce n'est pas une différence de statut, c'est une différence de fonction. À certains, il a demandé de faire telle chose, à d'autres, il les a équipés pour faire telle autre. Mais ce n'est pas pour ça qu'un tel est plus grand que tel autre. Ce n'est pas parce que je prêche que je suis plus haut dans la hiérarchie que vous qui écoutez, que je suis plus haut que ceux qui enseignent les enfants à côté là où on ne les voit pas. Dieu nous utilise comme les membres de son corps. Il a donné à chacun des dons différents. Certains sont capables de prêcher, d'autres sont particulièrement forts avec les enfants. Certains gèrent bien l'argent, d'autres savent diriger, nous entraîner. Tout ça, ce sont différentes fonctions. Et la réponse de Jésus, eh bien, la réponse de Jésus à ses disciples, elle reste. Serviteur, voilà ce que nous devons faire pour grandir, pour être son plaisir. Nous devons être serviteurs. Serviteurs de tous, y compris des plus faibles, particulièrement des plus faibles. Pas seulement de ceux qui peuvent nous rendre les choses, mais aussi de ceux qui ne peuvent pas. Comment aujourd'hui ça se caractérise, ça, ce service humble? On peut en discuter, il y a des candidats. On peut faire le ménage, on peut se proposer pour faire la vaisselle spontanément à l'issue des repas fraternels. On peut préparer la Sainte Cène fidèlement, un dimanche sur deux, dans la cuisine sans que personne nous voie. Ce sont des exemples de services humbles, il y en a d'autres. Mais que faisons-nous des enfants? Et ça, c'est une question que j'aimerais aborder ce matin. Parce que nous les avons vus devant nous, les enfants sont très présents dans l'Église. Ils sont là au premier rang pendant la première partie du culte. Ils sont remuants, parfois bruyants. Comme dans Marc 10, ils nous envahissent un peu et comme les disciples, parfois on a peut-être envie de les écarter, plus gentiment que les disciples. On essaye de leur donner une certaine place et c'est bien. Mais en même temps, on galère tous les ans pour trouver des moniteurs. Ça fait un an qu'on n'a pas de responsable pour la crèche. Pendant les vacances scolaires, il y a une liste au fond de la salle pour garder les enfants pendant, pendant la deuxième partie du culte. Et cette liste reste désespérément vide. On est obligé de faire des appels pressants au début du culte pour trouver des gens qui s'occuperont d'eux. Il faut bien reconnaître qu'on peut progresser aussi. Soyons clairs, s'occuper des enfants, c'est moins en vue que d'être là, présent au culte, que d'être devant, vu par tous. Et même là, j'ai remercié les musiciens qui m'ont donné un chouette coup de main. Je ne suis pas sûr qu'on remercie les moniteurs des cultes du dimanche aussi souvent qu'on le fait pour les musiciens. Servir parmi les enfants, quelque part, il y a un côté un peu solitaire, un peu à l'écart, pas à la vue des autres. Il y a un sacrifice à s'occuper des enfants, sacrifice de ne pas être présent au culte, un dimanche par mois, par exemple, pour donner au lieu de recevoir. Donc, parlons de ce que nous voulons faire avec les enfants. Notre projet d'église peut être résumé, notre vision d'église peut être résumée ainsi, faire des disciples qui font des disciples. Et puis, je le résume graphiquement par ces cercles concentriques, hein. Aller chercher des gens à l'extérieur pour les amener, non pas à l'intérieur de l'Église, mais toujours plus près du centre, plus près de Jésus-Christ, de ce qu'il attend que nous soyons nous-mêmes des disciples en action. Ce projet, eh bien, il se décompose à tous les niveaux. Tout d'abord, d'inviter des gens pour qu'ils passent la porte une première fois. Ensuite, de les accueillir pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils aient envie de revenir. De prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous réconcilie avec Dieu une fois pour toutes, gratuitement, cette bonne nouvelle qu'on peut saisir, la prêcher pour qu'ils se convertissent. Et ensuite, continuer à enseigner tout ce que le Seigneur a prescrit pour être des chrétiens qui grandissent dans la sanctification, toujours plus conformes à ce qu'il attend. Et ensuite, eh bien, envoyer. Envoyer les gens, que ce soit au loin ou au sein de l'Église, comme on a envoyé nos moniteurs s'occuper de nos enfants, comme je suis envoyé ici, pour réfléchir et partager avec vous le fruit de cette réflexion. Envoyer, donner un ministère, encourager dans ce ministère. Comment on fait le lien entre ça, entre ce projet d'Église et la jeunesse ? J'aimerais mettre en avant, proposer trois directions. La première, c'est que nous soyons un lieu d'accueil pour la jeunesse. Un lieu d'accueil pour que la jeunesse ait envie d'être présente, se sente bien parmi nous. Qu'on ne les considère pas comme quelque chose d'encombrant qu'il faut gérer, mais qu'on les désire et qu'ils le sentent. D'abord, je pense qu'il faudrait répondre à cette question. Qu'est-ce que la jeunesse ? Je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que ça commence à la naissance. La question, c'est quand est-ce que ça s'arrête ? On y a réfléchi. On avait une réunion de réflexion sur le sujet cette semaine. Et j'aime bien cette idée qui en est ressortie, que la jeunesse, quelque part, c'est des gens qui se considèrent comme étant en apprentissage, on l'a dit tout à l'heure, hein, sur le texte de Marc 10, qu'est-ce qu'un enfant ? L'enfant, c'est celui qui sait qu'il a à apprendre de Dieu, et la jeunesse dans l'Église, elle attend qu'on l'enseigne. Elle attend qu'on l'enseigne dans les classes d'école du dimanche, et elle attend qu'on l'enseigne jusqu'aux jeunes adultes. Hein, vous avez entendu peut-être parler des soirées T3CQ, T3CQ pour « Tu crois, ça change quoi ?» C'est une demande des jeunes. On veut être enseigné. On veut savoir concrètement ce que ça change de croire dans nos vies. Et c'est une demande qu'ils ont faite aux anciens. Donc, la jeunesse, c'est tout cet âge-là qui a soif d'apprendre. Et on veut s'en occuper. Donc, je proposerai de la naissance jusqu'aux jeunes adultes. Cette jeunesse, nous voulons l'accueillir. Nous voulions qu'il y ait des choses prévues pour elle à l'Église. Quelle est sa place ? Déjà, que les parents puissent être déchargés du souci de devoir toujours avoir un œil sur leurs enfants, un œil je regarde, un œil je surveille, qu'ils puissent être déchargés de ça. Que ceux qui passent la porte de l'Église, qui ne connaissent pas le message de l'Évangile, puissent se concentrer dessus, se concentrer sur la bonne nouvelle et la recevoir pour eux-mêmes. C'est pour ça que la crèche en particulier est très importante. Que nous puissions donner confiance aux parents. Nous nous occupons de vos enfants. Allez-y, écoutez, profitez, recevez ce qu'il y a à recevoir, ce don gratuit que Jésus donne. Non seulement avoir quelque chose prévu pour les enfants, mais aussi quelque chose qui les concerne. Quelque chose qui leur parle avec les mots qu'ils comprennent. Que les enfants puissent avoir des bons moments à l'Église. À travers les chants, à travers les activités, à travers les jeux, à travers les histoires par lesquelles ils sont enseignés et qu'ils aiment. Qu'ils puissent voir que la Bible, c'est aussi pour eux, et pas seulement pour quand ils seront grands. Qu'ils aient envie de revenir. Qu'ils traînent leurs parents à l'Église. Papa, maman, quand est-ce qu'on y retourne ? Voilà ce qu'on veut vivre dans cette église, un lieu où les enfants ont envie de revenir et emmènent leurs parents avec eux. Je me souviens, plusieurs ont témoigné de ce qu'ils ont choisi cette église parce que leurs enfants étaient bien accueillis. Ils ont fait le tour des églises de Clermont, ils hésitaient entre plusieurs et puis finalement, ils ont retenu celle-ci parce que leurs enfants étaient bien accueillis. Mais plus encore, je me souviens d'une petite fille, il y a plus de 20 ans, qui s'est convertie, qui a choisi de suivre le Seigneur avec sa voisine, qui était la fille du pasteur. Elles en ont discuté ensemble, toutes les deux. Elle a choisi de suivre Jésus, elle a voulu venir à l'église, elle est venue, avec sa voisine, hein, avec le pasteur. Petit à petit, elle a amené ses parents aussi. Et ses parents se sont convertis. C'est arrivé ici, dans cette église. Et c'est ce qu'on veut vivre, des parents, des enfants qui ont envie de revenir, envie au point de transmettre. Et que dire du groupe de jeunes adultes ? Là aussi, ça a été un lieu où les jeunes étaient contents d'être là, de venir, de revenir, où ils en ont invité d'autres, où ils ont pris des décisions pour le Seigneur, pour vivre avec lui. Plusieurs ont choisi de se faire baptiser. Et dans leur témoignage, ils disaient tous la même chose, combien ce lieu avait été important. L'accueil des enfants, l'accueil de la jeunesse, est nécessaire si nous voulons être une église accueillante. Le deuxième axe de notre vision pour la jeunesse, c'est d'être une aide pour la transmission de l'Évangile au sein des familles. Parce que il est nécessaire de transmettre notre foi, c'est quelque chose qui nous est commandé dans la Bible. Et j'aimerais lire le psaume 78, qui est très beau. Enfin, le psaume, une partie, hein, parce qu'il est long. Le psaume 78, où il est dit du Seigneur qu'il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils pour que la génération future sache Des fils naîtront, ils se lèveront et ils raconteront à leurs fils. Ils fonderont en Dieu leur assurance, ils n'oublieront pas les actions de Dieu, ils garderont ses commandements. Ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas sûr à l'égard de Dieu. C'est une préoccupation que de transmettre cette bonne nouvelle de ce qu'on peut vivre avec Dieu. C'est à chaque génération de se l'approprier. C'est pas un jour je deviens chrétien et hop, toute ma famille qui suit l'est après moi. Chaque génération doit se l'approprier. Et donc chaque génération a le devoir de la transmettre. Et de transmettre, c'est très beau ce qui est dit dans ce psaume, de transmettre pour que la génération suivante soit meilleure que la précédente. On n'est pas dans un mouvement où il faut garder les choses et puis petit à petit ça diminue. Non, on est dans un mouvement où il faut que ça augmente et que la génération suivante soit plus grande dans la fidélité à Dieu que la précédente. Et ça se passe en famille. De père en fils, nous dit l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on dirait de parent à enfant. Et on le retrouve dans le Nouveau Testament. Malgré le fait que Jésus soit venu pour une relation personnelle et non pas une relation qui se transmet familialement, quand on regarde les qualités qui sont demandées aux dirigeants de l'Église, on attend d'eux qu'ils aient une bonne moralité, qu'ils soient de bons chrétiens. Et parmi ça, il est demandé qu'ils dirigent bien leur famille et maintiennent leurs enfants dans l'obéissance, en toute dignité, dans 1 Timothée, ou dans Tite, que leurs enfants soient croyants ou fidèles et ne soient pas accusés de débauche ni insoumis. Donc même dans le Nouveau Testament, où on met en avant la relation avec Dieu, personnelle, il est quand même demandé aux parents de prendre soin des enfants et de les conduire sur la bonne voie. C'est aux parents que ça revient. Ne vous y trompez pas. Le rôle de l'Église n'est pas d'éduquer vos enfants ou vos jeunes dans le Seigneur. Ce n'est pas son rôle. L'Église est là pour vous aider. Et au passage, soyons reconnaissants pour les moniteurs qui exercent ce ministère. C'est à nous de le faire, nous parents. C'est à nous que Dieu confie cette tâche. Les enfants, ce n'est pas juste la joie d'avoir de beaux bambins. C'est une responsabilité qu'il faut assumer. Vous avez, parents, la responsabilité de vous en occuper. Comment faire ? Comment faire quand on n'est pas moniteur d'école du dimanche, qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre pour raconter les récits bibliques aux enfants, qu'on n'est pas responsable de groupes de jeunes ? Comment faire quand on n'est pas des prédicateurs? Il y a des fois, on m'envoie des questions. Il y a des parents qui m'envoient des questions, j'ai bien du mal à y répondre. La dernière, il y avait un enfant de 6 ans qui demandait comment c'est possible que Jésus soit Dieu et il est mort dans le tombeau avant sa résurrection. Comment c'est possible tout ça? Mais c'est pas ça. Il ne faut pas avoir réponse à toutes ces questions pour guider ses enfants. Dans le Deutéronome, il est écrit « Lorsque vos enfants vous demanderont de quel droit l'Éternel notre Dieu a-t-il imposé ses ordonnances, ses lois et ses décrets, vous répondrez « Nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a tirés de là avec puissance. » Ce qui est demandé, c'est d'être capable de répondre aux questions de ce que les enfants voient dans ce que nous faisons. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous célébrez la Pâque tous les ans? Parce que l'Éternel nous a sauvés, c'est pour ça. Comment faire donc pour transmettre la foi à nos enfants? Je crois que la première chose, la chose indispensable, c'est d'avoir une vie de foi à la maison. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Pierre-Emmanuel Jean était là, il a pris cette image de la cigarette, de ce que ses parents lui disaient « ne fume pas » et qu'ils fumaient tous les deux comme des pompiers. Et que lui, ben, il n'a pas fait ce qu'il disait, il a fait ce qu'il faisait. C'est la même chose avec la foi. À nous de parler de Dieu dans nos familles, qu'il soit réel dans nos discours, qu'on annonce, qu'on lui fait confiance au quotidien, qu'on dise, qu'on le prie pour son conseil, pour son aide. Et puis il faut que nos actes collent, et ça c'est le plus dur. Il faut que nous ayons ce souci de progresser dans la sanctification. Il faut que nous soyons prêts avec nos enfants à reconnaître nos torts. Mercredi, j'étais au groupe de maison anglophone et on parlait du chapitre 3 de Jacques, sur les paroles, sur ce qu'on peut dire et qui peut être blessant. Combien de fois est-ce que je suis blessant avec mes enfants ? Combien de fois je suis agressif et que je leur crie dessus ? Je le confesse devant vous, ça m'arrive bien plus souvent que ce que j'aimerais. Est-ce que j'ai le souci de ce que ça arrête ? Est-ce que j'ai l'humilité de reconnaître mes torts devant mes enfants ? Vivre l'Église également. Y aller avec entrain. Ne pas la critiquer, en particulier devant les enfants lorsque nous rentrons à la maison. Tout ça, c'est des choses que nous pouvons montrer à nos enfants. Et puis, autre chose que nous pouvons faire, eh bien, c'est faire le lien avec ce que eux vivent à l'Église. Leur demander de quoi vous avez parlé à l'école dimanche. Ah, super, je l'aime bien cette histoire. Moi aussi, quand j'étais enfant, je me souviens, on en avait parlé. Et puis, faire le lien aussi avec le reste de la vie de l'Église, avec le culte, avec ce que l'Église vit. Il y a un papa qui m'a raconté qu'il a discuté avec ses enfants de 4 et 6 ans de notre projet d'Église, de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait vivre des disciples, de ce qu'on voulait faire des disciples, de ce qu'on allait déménager. Ça intéresse les enfants. L'Église, c'est réel pour eux. On peut le vivre à la maison avec eux. Répondre à nos questions. Lorsque nos enfants nous demandent « Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous allez à l'église ? Pourquoi vous donnez de l'argent pendant l'offrande ? Pourquoi est-ce que vous prenez la Sainte-Seine ? Pourquoi est-ce que vous venez faire le ménage ? Pourquoi ?» Répondre à tout ça pour les inclure et leur transmettre. Il faut avoir conscience que ça se joue tôt. Souvent, on le dit, ça. Les enfants, ils nous fatiguent à nous solliciter tout le temps. Ils nous fatiguent jusqu'au jour où, sans s'en rendre compte, ils ne nous sollicitent plus. Et c'est nous qui les sollicitons pour passer du temps avec eux. Et à ce moment-là, si on n'a pas pris l'habitude, eh ben c'est galère pour rattraper le temps perdu. Comment transmettre ? Mettez Dieu dans votre vie visible. Et l'Église fournit des occasions. Donne des explications quand c'est difficile. Il faut avoir conscience que c'est à moi de le faire. Que ce n'est pas le travail de l'Église, mais ma vocation de parent. Et puis, troisième point de notre vision, que l'Église soit un lieu de passage, de relais. Passage de relais pour le service. On veut être des disciples qui font des disciples, qui à leur tour feront des disciples. On ne veut pas juste que les gens se convertissent et pensent qu'ils sont arrivés, c'est terminé. On veut se mettre en mouvement. Comment vivre ça avec nos enfants ? Et ça, ce n'est pas forcément facile à réfléchir. Parce que quand on se souvient des cercles que j'ai montrés tout à l'heure, dans l'Église, on n'est pas là pour faire tourner l'Église à faire appel aux bonnes volontés pour boucher les trous. dans l'Église servent ceux qui ont la conviction que le Seigneur les appelle à servir, à être serviteurs. Et cette conviction, elle repose déjà sur la conviction première qu'il m'appelle pour être sauvé, sur ma conversion, mon désir de le suivre. Et nous, baptistes, qui mettons un point d'honneur à baptiser des personnes adultes ou au moins conscientes de leur engagement, comment est-ce qu'on fait avec ça? Un enfant ne peut pas mesurer ce que c'est qu'un engagement pour une vie, l'engagement de suivre le Seigneur pour sa vie. Comment est-ce qu'on l'accueille dans le service? Je crois qu'il y a une place pour l'engagement, en tout cas pour enseigner l'engagement à nos jeunes. Et cette place, elle passe par le contact. Par le contact, par l'encadrement, par l'investissement qu'on peut avoir sur les jeunes. Et cette transmission de personne à personne, elle est inscrite dans la Bible. Quand on regarde ce qui s'est passé avec Moïse, Moïse a pris Josué dès son plus jeune âge, il l'a gardé à côté de lui, il lui a appris les choses, il l'a préparé à prendre la suite. David avec Salomon aussi, quand il était jeune, il est écrit dans les chroniques, il est tendre, il n'est pas capable, il n'a pas les épaules. David l'a accompagné, lui a dit ce qu'il fallait qu'il fasse, il a préparé les choses. Cette transmission, elle est présente. Et ça, nous pouvons le vivre. Ceux qui ont mon âge ont tous un jour, à l'école primaire, au moins une fois, chanter la chanson d'Yves Duteil, prendre un enfant par la main. Prendre un enfant par la main pour l'amener vers demain. C'est ça qu'on est appelé à faire. Prendre un enfant. Et là, on ne va pas réussir à les prendre tous en même temps. Si on veut faire les choses bien, on va en prendre un, on va en prendre deux. Investir dessus, passer du temps, les connaître personnellement, comme vous le faites avec vos amis à l'église. Vous n'avez pas le même niveau de profondeur avec chacun. Et il est difficile pour moi de trouver un autre exemple que ce que j'ai vécu dans cette église. Je suis venu ici avec mes sœurs parce que ma mère nous y a amenés. Et j'ai rencontré dans cette église plusieurs personnes qui ont investi sur moi. D'abord, j'ai été salué par des adultes qui me disaient bonjour, mais pas juste comme ça, qui connaissaient mon nom, qui demandaient de mes nouvelles, qui les écoutaient avec intérêt. Et puis une année, l'Église a organisé un parrainage de prière. On a fait la liste de tous les enfants et on les a distribués, chacun à un adulte. Et l'engagement était de prier pour cet enfant pendant une année. Et moi, j'ai été tiré par une dame âgée de l'église. Et j'ai vu combien elle avait à cœur ma personne, ce que je vivais, quand elle demandait de mes nouvelles. Et ça a duré bien après cette année-là. Elle a investi sur moi. Et plus tard, quand j'arrivais à l'adolescence, il y a un des musiciens qui m'a dit « Ah, mais tu joues l'instrument ? Bah, viens avec moi. Regarde, tu sais jouer celui-là ? Il est simple. Tu veux le jouer dimanche ?» Il ne m'a pas dit « Vas-y ». Il m'a dit « Viens avec moi ». Il ne m'a pas envoyé. Il m'a gardé à côté de lui. Il m'a montré les notes. Il m'a donné des conseils, il m'a repris quand je me plantais. Il a passé du temps avec moi, il a investi avec moi là-dessus. Et ça a continué pour d'autres choses après mon baptême. Des personnes comme ça qui ont pris du temps pour investir sur moi. Et ça, je crois que c'est un défi pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous qui voulons nous investir dans cette église. Ce défi d'entrer dans la transmission. Et d'y inclure les enfants. On n'est pas tous moniteurs. On n'a pas tous ce don. Mais on est tous concernés par l'accueil global de l'Église. Je crois qu'on est tous concernés pour saluer les enfants pour avoir une attention pour eux, pour nous intéresser à eux. On est tous concernés pour prier pour eux. Par exemple, quand on prie pour leur famille, chaque semaine. Et ceux qui sont engagés dans un service peuvent prendre un enfant par la main. Et le prendre avec lui. Tu veux m'aider à faire ça? Ça te dirait de faire ça? Regarde comment je fais. Encourager quand il veut. Accepter quand il ne veut pas. Et petit à petit, transmettre ce que le Seigneur nous a donné, ce à quoi il nous appelle. On dit souvent que les enfants sont l'Église de demain, que la jeunesse est l'Église de demain. Tout aussi souvent, on répond « Non, ils sont déjà l'Église d'aujourd'hui. » Et c'est vrai. Ils sont déjà parmi nous aujourd'hui. Mais ils sont l'Église de demain. Ils seront l'Église de demain sans nous. Quand nous ne serons plus là, eux, ils seront encore là. Ce seront eux l'Église. Est-ce qu'ils seront capables? Ben, quelque part, nous avons un rôle à jouer pour qu'ils en soient capables. En conclusion, je crois que s'occuper de la jeunesse, ce doit être notre souci au sein de l'Église quand on considère notre vision, quand on considère notre action. Souci d'accueillir, d'avoir une place pour les enfants et pas une place à côté où ils ne gênent pas, mais une place où ils sont heureux, où ils vivent des belles choses, où ils peuvent progresser avec le Seigneur, où ils reçoivent des choses pour leur âge. Notre rôle également, d'aider chacun dans les familles à pouvoir transmettre la foi, de donner du matériau pour réfléchir, que ce soit à l'école dimanche, que ce soit ce qui est vécu au culte, et que les parents puissent s'appuyer dessus pour conduire leurs enfants dans la foi. Et puis aussi un lieu où on passe le relais aux enfants, aux jeunes, pour qu'ils soient capables, à leur tour, de prendre en charge l'Église que Dieu confie à des hommes, qu'il confie à chaque génération. Nous ne sommes pas tous appelés à servir en tant que moniteurs, à servir au flambeau, à servir à la crèche, mais nous sommes tous appelés à avoir le souci de la jeunesse, à prendre part dans l'accueil, dans l'attention qui leur est portée. Ce qui se passe là-bas, dans les classes d'école du dimanche, le dimanche après-midi au flambeau, le samedi soir aux soirées de jeunes adultes et 3 sécu, c'est l'Église. C'est notre Église, ce qui se passe là-bas. La jeunesse fait partie de notre ministère. Vivons cette parole de Jésus qui dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Amen.